Bonjour, rebonjour, 8h, 9h30, ça y est, c'est l'heure de l'émission de la famille avec des invités du reportage. Nous allons accueillir dans un instant Nils Jérémy Circus, photographe, réalisateur. Il écrit aussi une multitude de romans, il a édité notamment Tristan et Oscar. Là, il vient nous présenter son nouveau roman qui vient tout juste de sortir chez la maison d'édition L'Harmattan, et son roman s'appelle Le Roi des Villes. Il y aura aussi par la suite les coups de cœur livres jeunesse, comme une fois par mois, avec la librairie Crocolivre, librairie jeunesse qui se trouve à Enghien-les-Bains. Nous échangerons aussi par téléphone avec Babette de Rosière, qui vous propose actuellement à la Porte de Versailles la 9e édition de son salon de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde, avec un coin consacré aux enfants, un espace dédié aux enfants qui s'appelle l'espace aux Marmailles. Il y aura aussi dans un instant la troupe du spectacle musical Molière, actuellement au Dôme de Paris, Porte de Versailles. Nous serons notamment avec Abby Bernardotte. IDFM Radio, tous les week-ends, c'est l'émission de la famille sur IDFM Radio. Allez, il vous reste encore quelques jours pour découvrir le spectacle musical Molière au Dôme de Paris, Porte de Versailles. Le spectacle se joue à Paris jusqu'à la mi-février. Ensuite, une grande et longue tournée. La troupe sera avec vous dans un instant sur IDFM Radio.
J'ai découvert un truc complètement dingue qu'on m'avait toujours caché jusque-là. J'ai découvert que vous et moi, on est des bêtes, et ça je ne le savais pas. On est des bêtes,
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 comme les vaches et les hiboux. Alors voilà, en gros, pour pas faire compliqué, on est des animaux habillés. Une énorme bande de bestioles auxquelles il ne manque même pas la parole. On est des bêtes,
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 on est des bêtes.
chez les caribous. Si on ne se trimballe pas tout nu, c'est parce qu'on n'est pas assez poilu. On a perdu en 4000 siècles nos poils d'Australopithèque. On est des bêtes.
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 Comme les vaches et les gnous. Ça ne se voit pas, on est des bêtes.
On est des bêtes.
Je suis une bête.
On est des bêtes.
Ma soeur, c'est une bête.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les hiboux, on est des bêtes.
On est des bêtes.
Mon frère, c'est une bête.
On est des bêtes.
Mes parents, c'est des bêtes.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous, on est des bêtes. Le facteur, c'est une bête.
On est des bêtes.
La maîtresse, c'est une bête.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les hiboux, on est des bêtes.
On est des bêtes.
Le président, c'est une bête.
On est des bêtes.
Le pape, c'est une bête.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous.
IDFM Radio, aujourd'hui je suis au Dôme de Paris, Porte de Versailles. On va parler du spectacle Molière, l'opéra urbain, le spectacle musical encore pendant moins d'un mois et demi ici à Paris. Ensuite le spectacle va tourner un peu partout, à Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Amneville et plein d'autres villes. Nous sommes avec Lou notamment. Bonsoir Lou.
Bonsoir.
Ça va, en pleine forme?
Oui, ça va très bien, merci.
Dans un petit peu plus d'une heure, tu montes sur scène, ça va? C'est fini la pression, puisque le spectacle a démarré il y a quelques mois, ou toujours un petit peu de trac?
Je trouve que la pression, elle dépend. Quand on fait un show, on va dire, habituel, avec tout le cast et tout, c'est assez... Je trouve que j'arrive à pas tellement être angoissée. Par contre, je sais qu'il y a un petit peu de changement quand il y en a un de nous qui peut pas être là parce qu'il est malade ou quoi, et qu'il y a une doublure, ou alors qu'il y a des petits problèmes techniques. Là, je trouve que ça nous remet dans le moment présent. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu plus d'appréhension.
Tu nous rappelles qui tu es dans le spectacle? Tu fais partie de la famille Béjart?
Ouais, je suis la fille de Madeleine Béjart, et je m'appelle Armande, et je suis la femme de Molière. Voilà.
Ah, ça c'est cool d'être la femme de Molière. Nous sommes aussi avec China Pranzola. Bonsoir.
Yeah, bonjour.
Tu vois, tu manges pas comme les autres, non?
Non, pas tout de suite, un petit peu après.
C'est mieux parce que t'as envie d'être plutôt légère pour chanter, danser.
Non, pas spécialement, mais c'est surtout qu'on a tous notre petit rythme de préparation avant le spectacle. Il y en a qui se font préparer au make-up un peu plus tôt, donc pendant ce temps-là, il y en a qui mangent, etc. Et puis là, moi, j'étais en petite préparation make-up. Je finis, après, j'irai manger.
C'est fini là, le make-up du noir, du bordeaux un peu au niveau des yeux.
Il reste des petits détails, mais oui, c'est quasiment fini là.
La coiffure, elle est parfaite.
Ouais, elle est très bien la coiffure, merci beaucoup, c'est très gentil.
Là, c'est Morgane, c'est ça?
C'est ça.
Bonsoir Morgane.
Bonsoir.
La coiffure, on la voit, elle est presque prête là. Hein. Les bigoudis, ouais. Ils ont bien tourné. Hein.
Le maquillage est en travaux, mais la coiffure est finie, c'est bon.
Belle coiffure, en tout cas. Toi, tu tiens quel rôle dans ce spectacle? Tu fais partie aussi de la famille Béjart.
C'est ça. Moi, je joue le rôle de Madeleine Béjart, qui est la mère d'Armande Béjart, qui est jouée par Lou, du coup. Et donc Madeleine Béjart, qui était une grande actrice pour l'époque, un peu diva, qui a aidé Molière à devenir Molière, qui a aidé Jean-Baptiste Poquelin à devenir Molière, on va dire ça comme ça.
Et c'est la marquise, hein, bien sûr, pardon. Enchantée, hein.
Enchantée, Shaida.
Il y a aussi Abby Bernardotte, bonsoir.
Enchanté.
Ça va, toi tu manges asiatique, des petites pâtes, des nouilles.
C'est ça, histoire de se donner des forces un petit peu avant d'y aller, parce que c'est vrai que le train de vie qu'on mène n'est pas forcément évident. Des fois on fait des shows, on rentre tard, on est tout décalé, et j'ai tendance à manger bien comme il faut avant les shows, pour bien digérer sur scène, quoi.
Ah, c'est ça les héros et les pères, pardon.
Non, c'est pas vrai. Non.
En tout cas, toi, t'as besoin de manger un petit peu avant.
C'est ça. On a chacun, comme disait Shaila, on a chacun nos petits rituels et voilà, on a tous nos habitudes et on se trouve. C'est un écosystème en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que chacun va chacun mène son train de vie et on se retrouve tous sur scène en fin de compte, quoi.
Et tu essayes que tes repas soient équilibrés aussi, là des nouilles, demain du riz, après-demain des brocolis.
Je prends ce que je trouve, hein. Franchement, c'est... Ouais, voilà. Non, je ne dis que la vérité, je prends ce que je trouve. Là, je sais pas si je peux faire plus équilibré que ça, mais souvent, c'est des gros plats bien gras pour compenser, parce que sur scène, des fois, on envoie pas mal d'énergie quand même.
Il y a aussi Tommy, hein, ou Petit Homme, comme on veut.
Petit Homme, c'est mon blase d'artiste, mais Tommy, en ce moment, c'est bien.
Donc c'est toi, Jean-Baptiste Poquelin.
Ouais, dis-moi
ça ne rigole pas.
Oh si, je veux dire, une troupe de théâtre, ça reste du jeu, ça reste du plaisir, mais je crois que Molière avait de grands rêves, mais tout partait par le plaisir qu'il partageait avec sa troupe, et c'est exactement ça qu'on vit à travers ce projet, donc c'est du sérieux autant que du plaisir, mais plus de fou rire que de sérieux, quoi.
Tu te sens bien, finalement, dans ce rôle? C'est un homme de théâtre, donc on va dire que toi aussi, tu joues la comédie, tu danses, tu chantes.
Ouais, c'est un grand plaisir de pouvoir le faire, mais il y a quand même eu cette phase de travail qui n'était pas trop évidente, mais il faut passer par cette phase de travail pour avoir du plaisir par la suite. Quand tu as bien bossé, que tu connais ton truc, tu arrives sur scène et tu as une certaine liberté quand tu as créé tes propres codes du personnage. Après, tu te sens plus libre et ouais, là, on s'amuse de ouf sur scène.
Il y a aussi Vic, hein, je crois.
Hein. Vike, ouais, plus.
Vike, d'accord. À l'américaine.
Ouais, à l'américaine.
Non, mais je sais pas, oui. Non, mais ça se dit Vike.
Ça se dit Vike, ouais, c'est un surnom d'enfance, donc c'était à la base venu de là. À la base, c'est d'une blague, et puis c'est resté un peu.
Toi, tu es Louis Béjart.
Louis Béjart, exactement.
Donc, tu connais bien Lou, tu connais bien.
Je suis donc.
Bah, voilà, c'est, tu fais partie de la famille.
Frère de Madeleine Béjart et de Joseph Béjart aussi, qui est Basile, que tu as rencontré aussi tout à l'heure.
Mais il est où?
Basile, il est dans la loge.
Bon, il viendra pas ce soir peut-être. Il se prépare, il se concentre en tout cas.
Basile, il a besoin un grand temps de préparation.
Il a un rituel.
Un bain froid, etc. Bain de glace, tout ça.
Et Vike, donc par rapport à Molière, Jean-Baptiste Poquelin, ça va, tu l'apprécies moyennement?
Je l'apprécie bien. Bah, c'est un peu, en fait, avec Madeleine, on fait partie de la même famille, mais Jean-Baptiste Poquelin, il fait un peu partie de la nôtre aussi. On le mène un peu en bateau pour qu'il finance l'illustre théâtre qui est la création, le premier théâtre qu'on crée. Et en fait, ça devient un membre de la famille à part entière pratiquement.
Jean-Baptiste Poquelin, il a 20 ans quand on démarre le spectacle. On est en 1643. Merci Morgane pour cette précision. Donc il a une vingtaine d'années. Il est ambitieux. Il sait où il va en tout cas. Mais bon, comme tout beau projet, ça peut pas fonctionner tout de suite. Hein. Donc il va rencontrer pas mal de difficultés.
C'est ça ce spectacle en fait. On vit tous les hauts et ensuite il y a une descente, il y a des hauts. On est toujours amené dans cet ascenseur émotionnel et on raconte vraiment Molière comme tu dis à 20 ans et le spectacle. Il va jusqu'à ce qu'il termine sa vie. J'étais déconcentré, désolé par la sonnerie. Mais par la suite, c'est ça.
Ton téléphone répond si tu veux.
On raconte
c'est peut-être
ans.
Un appel urgent du Québec.
Non. Là, c'est le spectacle le plus important. Et on raconte 30 ans de sa vie. Donc, ouais, il y a une énorme histoire de haut et de bas, quoi.
Tiens, tu me lances une perche au téléphone portable. Ils sont où quand vous jouez 2 heures de spectacle? Ils restent en loge, ils sont éteints, ils sont allumés.
En loge, en vrai, hein, tout le temps. Ouais, ils sont tout le temps.
Ils sont dans la poche. Tu sais, on a une espèce de poche de costume. Voilà, ils sont dans la poche, là. Avec mes chaussettes.
Ils sont pas sur nous, ni.
Tu vois, s'il y a des trucs drôles qui se passent en coulisses, des fois, c'est toujours cool de filmer un petit truc comme. Ah, y a un petit. Et là, ça
crée. Personne n'a oublié, je sais pas, non, c'est impossible, vous pouvez pas être sur scène avec votre téléphone portable. Est-ce que vous vous changez constamment de costume, d'habit?
Ouais, et surtout qu'on n'a pas de poche. Nous, on est en robe. Moi, je sais que je change. Ouais, c'est un petit peu embêtant, quoi.
Ouais. Des belles robes d'époque, justement, Lou. Les essayages ont été compliqués au début ou pas? C'est serré, c'est large.
C'est très marrant parce que je sais que moi, je savais pas à quoi m'attendre. On avait vu un petit peu les croquis de Jean-Daniel. Oui, j'allais le dire, laissez-moi le temps.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non,
il croit que j'avais un trou mémoire. C'est vrai. Et du coup, mais de les voir et de les essayer, c'était vraiment particulier, je trouve. Et en fait, on a tous une base en dessous qui est noire. Et par-dessus, on va mettre nos costumes. Et moi, je sais qu'à l'acte 1, comme Armande, elle arrive un peu tard dans le spectacle. Je joue plein de rôles avant. Du coup, j'ai plein de costumes différents. Et c'est cool parce qu'ils sont tous pratiques. Ils sont tous dans des matières qui sont assez élastiques et tout. Après, il arrive qu'entre deux séquences, il y ait des petits boutons qui s'en vont des vestes et tout. Et ils nous les recoudent direct. Donc, c'est hyper cool, je trouve. On a des bons costumiers. et des bonnes habilleuses aussi.
Shaina, tu connais l'ensemble de l'équipe. Vous êtes peut-être une centaine à travailler sur ce spectacle. Entre les différents producteurs, les danseurs, les chanteurs, les magiciens du son, de la lumière. Qui s'occupe de la lumière qui est tout en haut, tu sais ou pas? Non, je plaisante.
Non, Arnaud le son et attends, la lumière
c'est Dimitri qui
Dimitri.
A géré. C'est le chef,
voilà, c'est ça.
J'exagère, on vous demande pas quand même de connaître par cœur les noms des uns et des autres.
Il s'appelle Dimitri, celui qui gère la lumière. Mais ouais, on est une équipe de 80 et ce qui est ouf, c'est qu'on s'entend tous hyper bien, tout le monde est hyper bienveillant, on est vraiment bien entouré à tous les niveaux. Et ça, je trouve que c'est la vraie richesse aussi de ce genre de projet, de pouvoir compter tous les uns sur les autres tout le temps, quoi.
C'est la première fois que tu participais à une telle comédie musicale?
Ah ouais, c'est la première fois que je participais à une comédie musicale tout court. Et d'un projet aussi gros, ouais, c'est énorme.
Tu avais ça dans un coin de ta tête, tu voulais participer à un tel spectacle ou pas?
Ouais, ouais, carrément, depuis toute petite, moi je suis une grande fan de comédie musicale. J'ai fait toutes celles du collège, toutes celles du lycée. J'ai même arrêté le lycée pour faire une école de comédie musicale quand j'ai eu 16 ans. Donc ouais, c'était un de mes rêves et je suis trop contente de le réaliser là, tous les soirs.
Vike aussi, première fois ou pas?
Ouais, première fois.
Ou au collège, je sais pas, au lycée.
J'ai fait une comédie musicale quand j'étais en école à Reims et c'était sur Sherlock Holmes, ouais, pardon, c'est ça. C'était Sherlock Holmes et j'ai joué Sherlock Holmes.
Tu étais le détective?
Exactement, ouais. Et c'était une
avec
autre
ta loupe.
Avec, j'avais pas de loupe, non. J'avais une pipe, mais j'avais une pipe, mais c'était une autre
ampleur. Pas aussi, c'était... c'est autre chose.
Ouais. Et bref, et du coup, on avait tous adoré faire ce projet-là, etc. Et c'était un truc étudiant, donc c'était fait par des amateurs pour des amateurs, et c'était une bonne première formation.
Morgane, tu arrives longtemps en avance avant de démarrer le spectacle. C'est à 20h, c'est ça, hein?
C'est ça.
Actuellement, vous jouez mardi, vendredi, samedi, dimanche, ou je sais plus, ça change aussi. Ça a pas mal changé, puisqu'à un moment donné, il y avait que des représentations, je crois, sur le week-end, hein, au début, au démarrage. Vous êtes là depuis mois de novembre 2023. Vous êtes arrivé bien évidemment avant pour répéter, pour voir un peu l'ambiance, le décor, vous chauffer aussi, vous acclimater à cette ambiance musicale. Du coup, oui, en règle générale, vous arrivez tous en même temps, pratiquement, ça dépend ou pas?
Non, on n'arrive pas tous en même temps. Je sais que les filles, on arrive autour de 17h45 par là pour la coiffure. Moi, j'ai une coiffure qui est assez longue parce que j'ai un postiche en plus à accrocher, donc ça prend un petit peu plus de temps. Et j'aime bien prendre le temps de me maquiller aussi, donc j'ai tendance à arriver moi vers 17h30 pour jouer à 20h. Ça me va très bien, quoi. Plus j'ai du temps, moins je suis stressée, plus je suis tranquille, je peux me préparer, faire mes exercices de chant.
Voilà. Habille-toi, tu es le prince de Conti. Tu connais un peu ou pas son histoire, son vécu? Tu sais que sur le Val d'Oise, il y a aussi à l'île d'Adam le fameux château de Conti. Je dis ça parce qu'il est valdoisien, voilà, depuis quelques années. Donc c'est marrant parce que tu incarnes ce Conti et il y a aussi sur le département où tu as vécu une histoire par rapport à tout ça.
Ouais. Là où ça n'a pas été évident, moi quand j'ai fait des recherches sur le personnage que j'allais jouer, c'est que il n'y a pas tant d'infos que ça en réalité. Et en fait, forcément, il faut jouer un personnage par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on voit de lui. Ce que nous disait le metteur en scène, qui est incroyable d'ailleurs, Ladislas Chola, il nous disait qu'il faut s'imprégner de ce qu'a vécu le personnage. Et je joue ce personnage qui est un peu qui vit dans l'ombre de son grand frère, parce qu'il y a le prince de Conti, il y avait aussi le prince de Condé qui lui était beau, qui était grand et fort, c'est lui qui menait la rébellion.
Le prince de Conti, il est beau quand même, il est séduisant, il plaît, non?
Il est né dans l'histoire.
Ah, dans l'histoire. Mais là, dans le spectacle, quand même, voilà, il roule quand même un peu des mécaniques.
Il roule les mécaniques. Dans l'histoire.
Ah bah, il y a Areski, bonsoir, bienvenue. Salut. Vous pouvez venir, entrer, très cher. Hein, donc voilà, il se prépare à Areski. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Areski aussi valdoisien qu'on a reçu à plusieurs reprises à la radio et qui lui joue beaucoup le roi de France, mais plusieurs rôles en fait. Hein, c'est impressionnant. Hein. On va discuter avec lui dans un instant. Toi, tu as juste ce rôle, c'est déjà pas mal. Tu interviens sur pratiquement, peut-être pas sur tous les plateaux, mais on te voit sur les deux parties, parce que c'est un spectacle qui se joue en deux parties. Il y a une pause de 20 minutes.
Ce que je trouve intéressant avec le perso que je joue, c'est que il part et qu'il revient, il est pas forcément là tout le temps ou il est pas forcément pas là du tout, c'est que, et c'est là un peu qu'est le challenge en tant qu'artiste, c'est d'avoir des apparitions qui sont marquantes parce que il se passe tellement de choses des fois que ça s'oublie vite en fait. Et donc le but c'est d'apparaître et de marquer un peu la scène ou le spectateur à travers voilà. Et je sais que j'ai des passages qui sont assez, comment je peux dire ça, assez impactant dans le personnage, si je peux dire ça comme ça, que ce soit l'arrivée, que ce soit les moments où il s'énerve et qu'il en fout plein la tronche à Molière. Au moment où il est torse nu.
Ah oui, il est torse nu sur un magnifique lit. Hein.
Ouais. Ok. En fait, je trouve ça assez fou à quel point. En fait, je trouve que tu joues hyper bien, mais t'es tellement gentil dans la vraie vie, t'es tellement une crème, toujours à donner de l'amour tout le temps. Et en fait, le jour où on a fait les premières répétitions où t'as joué le prince de Conti, j'étais là. Waouh! Genre, comment est fait pour être aussi imbuvable que ça, genre? Mais j'adore ton rôle, je trouve que c'est un des rôles les mieux écrits en vrai.
C'est ça, en fait, qui est bien, en quelque sorte, c'est de sortir aussi un peu de sa zone de confort. Abby est une crème dans la vie de tous les jours, et puis là, c'est un autre personnage, assez féroce quand même, sûr de lui, hein.
C'est ça, je prends ça comme un compliment de savoir que je suis imbuvable sur scène, si je peux en tout cas. Mais ouais, faut se faire violence parfois, parce qu'il faut aller chercher des choses qu'on n'est pas ou des choses qu'on ferait pas forcément. Et en fait, faut vraiment se mettre dans une dynamique où on pense pour son personnage et on se dit qu'est-ce qu'il ferait à ma place, comment il réagirait à telle ou telle chose, et l'incarner sur scène. Et ça, c'est pas évident.
Très bien, on va se retrouver d'ici quelques minutes, toujours ici en direct de la Porte de Versailles au Dôme de Paris, pour vous faire découvrir un petit peu l'ensemble de la troupe Molière, l'opéra urbain. On va échanger un petit peu avec Areski aussi, et puis encore et toujours avec Tommy, Morgane, Abby et Vaik. On écoute sur IDFM Radio, et si c'était nous deux.
Que l'on attise entre toutes ces promesses et les larmes qui glissent, l'amour au cœur me laisse des cicatrices. Danse, 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 dis-toi que je danse pour toi. Mon amour, danse et danse, on se tourne autour, même si le jeu est dangereux.
Jamais nous deux.
Merci beaucoup, Morgane.
Merci.
Nous sommes de retour donc ici au Palais des Sports, Porte de Versailles, pour le spectacle musical Molière, l'opéra urbain. Donc tu fais partie de la famille Béjart. Je te laisse te préparer et
merci
puis
beaucoup.
Bon spectacle.
Venez nous
ce
voir.
Soir. Voilà. On est avec Areski. Salut, bonsoir.
Salut, ça va?
Ça va, en pleine forme?
De fou.
Ça te fait quoi de te retrouver au sein de cette équipe? En plus, tu es avec un autre Valdoisien, Abby.
Bah, effectivement.
Il y a deux Valdoisiens, le Valdoisien en force au sein de ce spectacle.
Alors, si je puis me permettre, moi je suis Picard,
initialement. Oui. Non, mais bon, mais c'est vrai.
Mais
que
j'habite Moselle. Allez, c'est vrai. Non, tu as raison.
Est-ce que tu avais fait des concerts, en tout cas, sur le Valdoise?
Sur le Valdoise, oui. Et ça a été une grande surprise, parce qu'il faut savoir que moi je boudais pendant 3 ans dans ma chambre quand je savais que Molière, l'opéra urbain, était en route. Que notre cher Bruno Berberès cherchait de jeunes comédiens, chanteurs, danseurs, slameurs, et que je disais, bon, je sais que t'as un grand carnet d'adresses, mais Bruno, appelle-moi! Donc je boudais, personne n'est au courant, mais je boudais bien. Et alors, quand je reçois l'appel, finalement, en décembre 2022, je suis très heureux, l'audition se passe très bien, je rencontre cette équipe formidable, que de beaux sourires, que de belles énergies, et moi j'ai toujours voulu être sur scène depuis que j'ai 3 ans quoi, donc.
Tu joues combien de personnages? Une dizaine? J'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas il y a le roi de France, mais pas loin en tout cas. On te voit danser, performer à plusieurs reprises. Tu interviens pratiquement sur tous les sur tous les tableaux.
J'ai compté, on a 8 rôles avec Louis XIV. On a 8 rôles. Donc en fait moi, Dove à la base il m'appelle et il me dit, viens, faut que tu juste fais un marathon sur scène, je vais mettre des costumes autour. Et voilà, oui, on a un crieur qui devient un soldat, qui devient un lieutenant, un courtisan, un médecin, Louis XIV, un prêtre et un serviteur. Donc on est à 8.
C'est dingue comment tu arrives à te concentrer. Tu sais qu'à 20h15, il faut enfiler ce costume. À 20h48, c'est l'autre costume, etc.
Absolument, ça a été l'un des travaux qui est souvent le moins amusant. C'est-à-dire de premier filage, deuxième filage, on commence à savoir, ok, il faut que je pose tel accessoire à tel endroit. Ça devient un jeu de Tetris qui est moins amusant que l'interprétation, évidemment. Et alors, très très surprenamment, le roi, qui a un costume absolument énorme, en fil tout ça, c'est le plus facile. Parce que, de fait, tu peux pas le mettre tout seul. Donc, t'es aidé par deux personnes. Donc, en fait, ça va, je viens, j'ouvre les bras et c'est à peu près tout. Les rôles plus petits où tu passes d'un crieur à un crieur soldat, ben, t'es un crieur. Tu dois courir et d'un seul coup, t'as un fourreau avec son épée que tu dois mettre dedans, tu dois mettre la ceinture, c'est con, il fait noir mais tu vois pas bien les trous, les menottes que tu dois t'attacher sur le côté, le truc que tu te mets autour du cou, le chapeau, et ça t'es vraiment tout seul, et ça c'est les moments vraiment un peu plus relous à gérer au début quand tu commences à apprendre ce Rubik's Cube de rôle.
China, c'est quand même chaud ce qu'il fait. Bon, il a peut-être moins de textes que toi et il chante un peu moins, mais il doit courir aussi dans tous les sens. Je dois être le roi de France, je dois être un soldat, je dois dire ça, je dois dire ceci.
Non, mais c'est un travail monstre. Moi, je suis une grande fan d'Areski, de plus en plus, parce que vraiment, à le voir sur scène et le voir même en dehors, dans tout ce qu'il fait, ce mec court partout et il a toujours une énergie de fou, il est toujours hyper souriant. Et puis hyper talentueux tout court. Donc ouais, non, franchement c'est un taf. Moi déjà un rôle je me dis wow, c'est beaucoup. Alors là 8. Et non, et puis il les fait parfaitement. C'est pas comme si il se focalisait sur le roi et que les autres il les délaissait vraiment. Il met autant d'intensité dans chaque personnage, qu'il soit du plus petit au plus grand. Et c'est ça qui est magique, je trouve.
Petit homme, tu t'es replongé un petit peu aussi dans l'histoire, bien évidemment, de Molière, ses pièces de théâtre. On voit à travers le spectacle qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est triste aussi, on va pas tout raconter, même si on connaît quand même. Il y a des grosses blessures, avec Lou aussi qui va perdre quelque chose. C'est quand même lourd à porter, cette histoire de Jean-Baptiste Poquelin. Même si tu te mets pas non plus tout le temps la pression, mais est-ce qu'au début, dans quel état d'esprit tu étais au début quand on t'a dit c'est toi qui tiendras le rôle de Molière?
Il y a tellement d'angles à prendre sur cette question. Parce que...
Pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est bien, j'aime bien. Parce qu'au final, c'est une composition de personnages qu'on a fait avec Ladislas d'une façon très rapprochée, Ladislas Chola, qui est le metteur en scène, et on a pu aller en profondeur. Et au début, j'ai eu le stress de vouloir faire Molière, et c'est pour ça que j'ai étudié ces pièces. J'ai même relu récemment L'École des femmes encore, parce que je me suis dit, à force d'en avoir trop lu, je me dis, faut que je les relise, parce que dans quelle pièce il dit telle phrase? Et j'ai relu L'École des femmes, donc ça me replonge dedans, et je trouve ça très cool. Au début, c'est difficile parce que t'as Ladislas, qui est une personne hyper sensible et hyper émotif. Donc quand il te raconte une certaine scène et dans comment que je devrais la vivre, je pleurais même avant de commencer à faire la scène. Et du coup, c'est autant beau que blessant. Et je crois que là, maintenant, on y allait beaucoup scène par scène. Donc du coup, tu vis une émotion après ça. Ok, on fait cette scène-là. Et là, c'était difficile de passer d'une scène à une autre pendant la création. Mais là, d'avoir cette espèce d'évolution du spectacle parce que chaque émotion se construit par rapport à celle précédente. Là, il y a une espèce d'évolution qui a plus de sens que de passer d'une scène à l'autre. Donc là, en spectacle, c'est moins lourd. En création, je trouvais ça difficile parce que du coup, ok, tu joues l'amour. Ok, 5 minutes plus tard, ok, tu joues, je vais pas dire tout ce qui se passe, mais Molière a une vie assez mouvementée. Donc, c'est de passer d'une émotion à une autre qui était assez difficile. Mais là, tout prend son sens dans l'évolution du spectacle chronologique.
Ce qui vous a plu aussi aux uns et aux autres, très rapidement, parce que vite, on se dépêche, c'est à la fois dans l'ancien temps, mais aussi il y a la modernité. Bon, après, ça peut choquer certaines personnes, bien évidemment, mais on leur en veut pas. Si elles sont pas contentes, elles se lèvent et puis elles vont voir un autre spectacle. Il y a aussi un personnage qui est complètement excentrique, on dirait une sorte de drag queen. Qui peut me présenter ce personnage en quelques mots? Abby?
Ouais, je peux. C'est Monsieur qui est le frère du roi et qui est comme tu l'as si bien dit, hein, il est complètement excentrique.
Il est allumé.
Mais ce qui est très intéressant, c'est il est joué par David Alexis et David joue aussi le père de Molière. Donc il a ces deux rôles qui sont aux antipodes de l'un et l'autre. Et quand il joue Monsieur le frère du roi, en fait, il ramène une espèce de touche de modernité parce que c'est un peu le vieux qui veut paraître jeune et qui emploie le dialecte ou le langage des jeunes, et c'est un peu ridicule, mais ça le rend aussi très rigolo, ça le rend attachant et touchant. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand on était dans les lectures de livrets et qu'on lisait les lignes de Monsieur, des fois je me disais aïe, mais qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait, de le voir interprété aussi justement par David Alexis, ça prend tout son sens.
David Alexis, c'est un grand nom dans les comédies musicales. Il en a fait une multitude, hein. C'est impressionnant. Je les ai plus en tête, mais je l'ai vu à plusieurs reprises déjà ici, à la Porte de Versailles.
Musical, là, il fait le spectacle. Star musical, pardon.
Scène, ouais.
Ouais, exactement. Et moi, j'ai, honnêtement, quand je l'ai vu et juste joué, même pas, je connaissais pas trop parce que je suis nouveau ici en France, donc je connais pas tous les. Mais quand j'ai vu David Alexis.
Bienvenue en France.
Merci. Déjà, ça, bon, je suis bien accueilli.
On l'a bien accueilli.
Et du coup, de voir David Alexis, ouais, je suis allé le voir pour des conseils, des trucs, parce que ça se ressent même en une réplique. Tu peux dire, ok, ce gars, il a du métier, j'y fais confiance. Et il joue le père, tu l'as dit justement, il joue le père de Molière, donc on a créé une relation très. Je veux dire, j'apprends beaucoup de ce garçon. Ouais.
Eh ben moi j'aimerais rester encore plus longtemps avec vous, mais c'est pas possible, c'est pas grave, on reviendra un autre jour. Votre actualité, très rapidement, donc Abby, on le reprécise, le prince de Conti, tu as fait The Voice, tu as chanté pour Disney, pour le film Soul, il y a eu plein de chansons, notamment C'est ma chance, etc. Après le spectacle, où là tu as mis en pause un petit peu tes projets musicaux?
Ça fait longtemps que je préparais l'album, parce que c'était la suite logique, dans le contexte du Covid et tout, c'était pas évident, mais maintenant je vais pouvoir continuer ce que je fais, parce que là on est sur un rythme très soutenu, mais ça se calme un petit peu et je vais enfin pouvoir finir et sortir cet album et juste sortir de la musique de manière générale. Des fois, en tant qu'artiste, on se prend tellement la tête qu'on crée sans jamais rien sortir. Et là, je suis dans une dynamique où je me dis, ok, il est temps d'arrêter de se prendre la tête et de juste faire ce qu'on aime faire et de partager ce qu'on fait, que ce soit de la musique, que ce soit des temps de création, que ce soit... Voilà. Donc, je sors de la musique et je suis actif, tout simplement.
Tiens, Ina Pranzola, c'est The Voice, hein, c'est la voix. Non, mais c'est non, mais même là, sur scène, tu as une voix, mais magistrale. Tu es une grande marquise.
Merci.
Quelle voix tu nous transportes, c'est vrai, non? Un EP est sorti en 2021, tu vas continuer de toute façon après. Bon, là, c'est du lourd parce qu'il y a une tournée, il faut assurer, je sais pas, c'est peut-être toute l'année, c'est peut-être encore l'année prochaine, ça va peut-être tourner jusqu'en 2030.
Qui sait? Honnêtement, comme l'a dit Abby, on a un rythme qui est très soutenu, mais le peu de temps de repos qu'on a, moi personnellement, ils sont consacrés à ma musique, à moi, parce que dans le spectacle, je ne suis qu'interprète. C'est un exercice que j'adore pratiquer et que j'ai adoré découvrir grâce au spectacle, mais à la base je suis quand même auteur-compositeur et je ne veux surtout pas lâcher ça. Moi, la carrière solo, c'est aussi le but, enfin la ligne principale de ma vie. Et donc l'EP qui est sorti en 2021, la Made in China, c'était très cool, mais c'est quelque chose de très amateur que j'ai fait toute seule avec des copains dans un petit studio. Et là je travaille, je sors je ne vais pas te dire de date, mais j'ai un single qui est prêt. Et je travaille sur un prochain EP également, au goût du jour, de la Shaina Pronzola, que pour l'instant, le monde ne connaît pas encore.
Et toi, petit homme, du coup, on te connaît peut-être un petit peu. Oui, oui, salut, salut, ouais, à bientôt.
Je me prépare.
Toi, tu avais déjà sorti quand même des morceaux, c'est pas nouveau, tu chantes depuis quelques années quand même, tu continueras de toute façon à peut-être à écrire, à faire des chansons pour toi.
Bah écoute, j'ai jamais arrêté d'écrire et déjà de côtoyer ce Molière, ça m'a donné encore plus envie d'écrire sur, ça a aiguisé ma plume en fait, si je peux dire. Et du coup, moi je crois que ouais, le plan c'est qu'en tant qu'artiste, on veut s'exprimer, c'est vital, c'est un. Puis on en parle souvent en tant qu'en troupe parce qu'on est tous des chanteurs et qui adorent vivre de ça, de la musique. Et ouais, le but c'est de continuer. Et Sap Molière, c'est une belle petite étape dans la carrière, mais au Québec, moi ça marchait très bien déjà. Et j'avais envie d'élargir mes horizons et d'arriver en France. Ça faisait 2 ans que je faisais des allers-retours avant même de faire Molière pour venir rencontrer des gens. Et là, moi, j'ai un album que je prépare depuis longtemps, que je retarde à cause de Molière et tout, mais ce qui fait que c'est pas négatif, c'est que tu réécris du nouveau stock encore. Éventuellement, tout ça va sortir, mais j'aime bien y aller moment par moment. Là, pour l'instant, c'est Molière, je lui donne mon cœur, j'y donne mon temps, et l'album, pour moi, il sortira plus tard quand tout ça aura tourné vers la fin un petit peu, tu vois.
Eh ben, merci beaucoup à vous toutes et tous. Ils sont presque tous partis, il y a Abby qui est resté et petit homme. Voilà, mais c'est normal, là, c'est la folie, c'est la course. Bravo, on va écouter un deuxième titre de Molière à l'Opéra Urbain, le spectacle musical. Rêver, j'en ai l'habitude. Merci beaucoup à vous deux, à bientôt, amusez-vous bien ce soir. Donc encore quelques représentations au mois de février, puis après tournée à Amneville, Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, un peu partout en France pour découvrir cette troupe. Venez voir ce spectacle sublime, extraordinaire. Fantastique. Merci encore.
Merci, ça fait trop plaisir et on vous attend. Venez passer de belles et des beaux moments, créer des souvenirs avec nous. Ça, c'est une tournée qu'on sait pas si ça va revenir. C'est une fois dans votre vie peut-être. Venez, on va kiffer ensemble.
À bientôt.
À bientôt. Merci pour tout. Merci pour l'accueil et hâte de revenir simplement.
À très vite sur EDFM Radio.
Les autres, ils sont comme il faut. Je fais ce qu'il faut pour leur plaire, mais ça sonne faux. Pas ma faute, ma faute, si je suis mieux dans ma peau. Loin de la lumière et derrière le rideau.
Ma terre à moi n'est pas ronde, je n'ai pas la bonne attitude. Je ne suis pas fait pour ce monde. Oui, rêver, j'en ai l'habitude.
Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude.
Les autres, ils ont dans les yeux l'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute de tout faire comme eux. Mais n'est pas toujours heureux celui qui veut.
Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes, les plus sombres et les plus drôles. Oui, rêver, j'en ai l'habitude.
Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude.
Côté court, je joue la comédie. Côté cœur, j'avoue, je sais pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude.
Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude.
Après le spectacle musical Molière, nous allons découvrir une autre personnalité que vous connaissez peut-être un petit peu si vous suivez régulièrement l'émission de La Famille le samedi sur LFM Radio. Nous avons déjà reçu Nils Jérémy Circus. Il nous a présenté différents romans, mais aussi ses spectacles. Nous allons aujourd'hui revenir bien évidemment un petit peu sur cette carrière, mais surtout nous attarder sur son nouveau roman qui s'appelle Le Roi des Villes et qui vient de sortir chez la maison d'édition L'Harmattan. Vous écoutez toujours l'émission de La Famille sur LFM Radio.
Everybody's got to be automatic in your electrical, romantical. Trying to find it way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way.
FM Radio, nous accueillons un nouvel invité en studio, Jérémy Nils Circus. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Bonne année.
Bonne année à vous, meilleur à toi.
Plein de bonnes choses à toi, à tes proches, des futurs romans aussi. En tout cas, il y a un troisième qui vient de sortir qui s'appelle Le Roi des Villes chez la maison d'édition L'Harmattan.
Oui.
Source d'inspiration, Jean de La Fontaine, ou rien à voir, non?
Non, rien à voir. Non, c'était mais, le titre était rigolo du coup par rapport à ça.
Mais tu as lu, comme tout le monde, les fables de Jean de La Fontaine.
Oui, à l'école, bien sûr, comme tout le monde.
Et le roi des villes, donc là, c'est un rat en quelque sorte
où ouais.
Est-ce qu'il y a un petit peu aussi une guéguerre entre les humains et les rats ou pas?
Forcément, mais...
Oui, oui, il y a une guéguerre, mais... Il va falloir qu'ils apprennent surtout à vivre ensemble.
Oui, ils vont essayer.
Enfin, c'est le vivre ensemble, en tout cas, que tu expliques à travers ce roman, un peu.
Ouais, oui, oui, j'ai essayé de mettre en avant le fait de pouvoir vivre ensemble et comment est-ce qu'on peut envisager de vivre ensemble.
C'est très court hein, comme roman.
Oui.
Tout le monde peut le lire. Hein.
Oui. Oui,
de
oui,
7
pense.
À 77 ans, sans problème.
Oui, je pense que les jeunes enfants, mais comme une fable de La Fontaine, les jeunes enfants ont besoin d'être accompagnés dans la lecture et que les parents aussi puissent expliquer qu'est-ce qu'on veut dire dans cette fable, parce que je le considère comme une fable, comme un conte.
Une très belle couverture en tout cas.
C'est gentil, c'est moi qui ai fait la photo.
C'est une couronne. avec sur le dessus de ce diadème ou de cette couronne un rat.
Oui, un rat doré.
Magnifique. C'est toi qui as conçu. Tu as fait la photo.
J'ai fait la photo et.
Mais c'est pas toi qui as conçu directement.
Non, pas la couverture. La couverture, ça a été conçu par mon directeur de collection de miroir du réel et que je remercie énormément, qui m'a beaucoup aidé tout au long de la conception et de la promotion de ce livre.
Un roman donc qui vient de sortir quand ? C'était là, fin de l'année dernière, chez la maison d'édition L'Armatan. C'est ton troisième. Avant, il y avait eu Tristan et Oscar, mais aussi une famille de vampires, la famille Vampire.
Oui.
Tu aimes ces univers, en tout cas, très fantastiques.
J'aime mettre...
Qui font un petit peu peur, mais sans trop non plus nous effrayer. Parce qu'il y a toujours des enfants, des âmes bienveillantes, en tout cas, à chaque fois dans tes histoires.
Oui, la peur avec de la gentillesse à l'intérieur.
Donc, tu es photographe, réalisateur.
Oui.
Tu as fait des études dans ce sens-là. Tu es diplômé des arts, c'est ça ?
Oui.
Des arts appliqués, plus précisément.
Exact.
Voilà.
Oui. C'est ma formation de base. Après, j'ai fait une école aussi de théâtre et je suis très vite passé... dans l'ombre de la caméra, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de pouvoir mettre mon propre univers plutôt que d'être dans l'univers des autres. Donc voilà, je trouvais ça...
Une comédie musicale aussi.
Oui, basée sur la famille Vampire.
Sur la famille Vampire, qui s'est jouée. Il y a eu quelques représentations à Paris. Hein.
Et les
J'ai loupé
ont
ça.
J'ai aimé. Et du coup, voilà, en espérant qu'elle puisse se rejouer... un jour peut-être.
Un peu un mélange de la famille Adams, univers Tim Burton aussi. Ouais.
Oui, je pense que j'ai été baigné là-dedans très jeune et que du coup ça m'a poursuivi d'une façon bienveillante.
Est-ce que là du coup, ce Roi des Villes, on peut dire que tu nous emmènes dans un nouveau monde féerique ou pas trop finalement, parce que tu t'es inspiré d'un fait qu'on a vécu dernièrement avec toutes ces poubelles qui se sont amassées suite à la grève des éboueurs.
Bizarrement, c'est quelque chose d'assez différent de ce que je peux faire d'habitude, où le monde de l'enfance est un peu détourné, justement, où ce qu'on peut retrouver dans les contes anciens, où il y a quelque chose d'un peu plus terrifiant, entre guillemets, où l'adulte doit expliquer à l'enfant. Mais en même temps où l'adulte se retrouve aussi et effectivement ça n'est pas forcément conçu que pour les enfants, dans le sens où en me promenant à Paris, en voyant toutes ces poubelles à ce moment-là, je me suis dit finalement, avec moi et mon âme d'enfant, qui est-ce qui vit cette chose de façon positive? Et je me suis dit, le seul qui vit ça de façon extraordinaire, ce sont les rats, parce que eux doivent se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette fête extraordinaire qu'on m'offre ?
C'est clair, ils en profitent. Hein.
Oui.
Ils doivent bien se régaler. Hein.
Ouais. Je pense qu'ils ont vécu...
Des trognons de pommes, des croûtes de fromage, profusion là.
Oui, dans les plus grands restaurants, ils ont dû vivre des énormes festins. Donc,
Et c'est vrai que tu expliques que le vivre ensemble, c'est important, même si effectivement, les rats, ça pourrait être quelque chose de sale. Ils ont été créés aussi d'une certaine façon... pour éliminer d'autres choses aussi. Hein.
Et puis du coup,
c'est le cycle de la vie.
Oui,
hein.
Et puis je pense que j'ai un amour immense pour les animaux, quels qu'ils soient, et ils ont une place toute particulière sur la terre. Et du coup, surtout à Paris, les rats sont plus nombreux que les humains, donc ils ont une place peut-être plus importante que nous, et c'est nous qui les chassons, alors qu'ils sont aussi chez eux finalement.
Et après, il y en a un peu trop aussi. Hein.
Aussi, c'est vrai.
Il faut faire très attention.
Oui, bien sûr.
Parce ça que va très vite. Hein. Ils aiment se reproduire. Hein.
Oui, puis
ils font que ça de la journée. Hein.
Oui, ça apporte des maladies aussi. Mais ils ont
oui, et ça
bien
apporte
raison.
Aussi. Oui.
Mais
ils ont raison. Il faut bien qu'ils s'occupent aussi. Hein.
Mais après, effectivement, il faut que chacun ait une place logique dans un écosystème. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu aussi expliquer. Là-dedans, c'est comment est-ce que eux nous perçoivent. Et c'était vraiment par le prisme de l'animal que j'ai voulu aborder cette histoire. C'est l'œil de l'animal qui observe l'homme, du coup. Et comment est-ce que lui nous appréhende? Comment est-ce que lui vit ce que nous, on lui offre de bien et de mal?
On va reparler dans un instant avec Jérémy Nils Circus. Son dernier roman s'appelle Le Roi des Villes. Vous êtes toujours sur IDFM Radio.
Tara était une bombe, mais la bombe a sauté. Tara était belle, mais la bombe est tombée. C'était elle qui se pavanait dans des tenues qu'il ne jugeait pas convenables. Elle qui se maquillait sous le regard de milliers d'hommes et de femmes. Elle et ses cheveux longs, la fougue et la flamme de celle qui se voulait libre dans un pays qui n'aime pas les femmes. Pas le droit de danser, pas le droit de poser, ça ne l'a jamais empêché d'oser vivre sa féminité. Tara était une bombe et la bombe a sauté devant les yeux des autres. Elle a osé le cintrer, elle s'était mise en tête de ne jamais leur céder. Tara était belle mais la bombe est tombée, 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 ah, elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, ah, elle est tombée. C'est la belle qui les menaçait, armée de ses multiples charmes et la haine qui l'a emportée à bout portant et de plusieurs balles. Pas le droit de penser, non, pas le droit de s'aimer. Si jeune et déjà mariée, elle a choisi la liberté. Et c'est dans sa brève existence qu'elle a donné un peu de sens. Sans un combat si valeureux, mais ça c'était bien trop pour eux. Tara était une bombe et la bombe a sauté devant les yeux des autres. Elle a osé le cintrer, elle s'était mise en tête de ne jamais leur céder. Tara était belle mais la bombe est tombée, 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 ah, elle est tombée, tombée, Tara est tombée, tombée, ah, elle est tombée.
IDFM Radio, nous sommes toujours avec Jérémy Nils Circus, Le Roi des Villes, donc c'est ton dernier roman, le troisième qui est sorti là dernièrement chez la maison d'édition L'Harmattan, après Tristan et Oscar et la famille Vent Vampire. Là, c'est une autre histoire, mais finalement, il y a toujours aussi ce côté sombre, un petit peu noir aussi, le rat vit caché, c'est ça aussi qui... intrigue, tu voulais un petit peu le mettre en quelque sorte sur un piédestal. Est-ce que en quelque sorte aussi, à travers le livre, quand on le lit, tu te mets, c'est toi finalement ce rat, ce roi?
J'avais envie du coup de... peut-être oui, parce que du coup j'aime la solitude, j'aime être reclus dans mon monde. Et ce que j'ai voulu aussi aborder dans cette histoire, c'est la thématique de peut-être un peu mystique c'est ce que l'homme donne au rat par ses poubelles que lui voit comme des offrandes extraordinaires, et comment est-ce que ce rat voit cela. Lui, pour lui, c'est un cadeau divin, quelque chose de merveilleux, et il se prend pour un roi, et jusqu'à se prendre même pour un dieu. Il pense que l'homme a fait de lui son roi et son dieu tout puissant. Donc il s'estime maintenant au-dessus de l'homme. Donc il y a toute une hiérarchie qui s'inverse entre l'homme et le rat. Maintenant, pour lui, le rat devient le dieu de l'homme. Donc je veux pas dire du tout que je me prends pour un dieu, loin de là, mais mais du coup je trouvais ça intéressant d'imaginer comment est-ce qu'un rat pouvait vivre le fait de devenir divin. et alors que du coup on le considère comme un parasite. Et voilà, l'animal pour moi est vraiment pas au-dessus de l'homme, mais il est tellement innocent parce qu'il n'a pas la notion du bien et du mal. Pour lui, ce qu'il fait, il le fait, il vit juste et sans jugement, que du coup, finalement, comment est-ce que lui vivrait le fait d'être quelqu'un de miraculeux.
En tout cas, tu le trouves fascinant, ce rat. Tu pouvais pas créer une histoire avec un autre animal. C'est vraiment sur cet animal que tu voulais vraiment écrire ton roman.
Ouais, en fait, c'est quand j'ai vu toutes ces déchets, ces détritus dans les rues de Paris, ça m'a vraiment choqué. Je me promets.
T'aurais pu faire pardon sur les pigeons.
Ouais, mais en fait, j'en vois tellement déjà tous les jours que, mais en fait, c'était toutes ces choses au sol que je me suis promené vers les Champs-Élysées. Et en fait, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que toute l'avenue des Champs était vraiment propre. Et j'ai basculé dans les rues derrière. Et en fait, tout avait été fourré derrière. Et du coup, ça donnait des montagnes, mais vraiment de taille humaine, de poubelles. Et comme c'était à ras-le-sol, j'ai vraiment imaginé ces rats le soir. Je discutais avec des gens, des restaurateurs qui travaillaient là-bas. Ils me disaient que c'était infesté le soir, ben, de rongeurs, quoi. Donc voilà, c'était leur, c'est l'animal finalement qui vit la nuit, qui se cache et qui va se nourrir des choses qu'on ne ramasse pas, quoi.
Tu l'as vu Ratatouille, le film des studios Disney?
J'adore.
Avec ce rat, effectivement, qui est un grand chef, finalement, qui cuisine divinement bien. Mais en faisant un livre comme celui-ci, ou même en regardant le film des studios Disney, c'est de lui donner de l'importance et peut-être moins rejeter aussi cet animal.
Oui, il y a quelque chose de beau dans tous les animaux. Je pense que toute créature est à aimer et à protéger dans la mesure effectivement où elle n'apporte pas de maladie, ou du coup en tout cas de préserver un environnement sain pour que du coup chacun puisse vivre en harmonie sur la Terre qui va quand même très mal, je trouve. Donc du coup les animaux sont pour moi des êtres à part entière, qui ne sont pas en dessous ni au-dessus des humains, sauf dans ce livre quelque part, parce que du coup il vit quand même une aventure où il n'est pas que roi, il est aussi déchu de son piédestal, il y remonte ensuite, il y a toute une aventure et un parcours initiatique qui le vit, c'est métaphorique et de la vie et voilà, c'est aussi quelque chose de bienveillant envers l'homme et l'animal. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que les gens à qui j'ai pu l'envoyer, ou les blogueurs, d'ailleurs je les remercie beaucoup parce que j'ai eu des retours auxquels je ne m'attendais pas, ont vu des choses sur lequel je me suis pas forcément attardé, que j'ai pas voulu forcément mettre en avant, mais avec des choses très écologiques sur lesquelles j'ai pas forcément pris parti, mais eux ont trouvé ça à l'intérieur. Donc du coup je me suis dit c'est des prises de position que j'ai pas voulu forcément appuyer, mais que eux ont trouvé dans ce livre. Donc
il y aura une suite ou pas? Non, forcément.
À moins qu'il y ait des nouvelles grèves extraordinaires, mais je crois pas.
Un autre roman est envisagé après celui-ci ou pas?
Oui, je pense que l'écriture, ou comme toute forme de création, quand on aime partager, est vitale. Et moi, j'ai besoin de ça.
Tu continues aussi à faire de temps en temps des courts-métrages. Tu en as, je crois, une dizaine. Et ouais, là, dernièrement, c'est Edgar.
Oui, Edgar, ouais. Inspiré d'un poème de Edgar Allan Poe, et qui est en animation, en stop motion, image par image.
C'est très beau, ça aussi.
Ben, je
c'est présenté déjà dans des festivals ou pas encore?
Oui, j'ai eu des prix en Italie, et du coup il y a vraiment quelque chose de très intime à faire de l'animation, parce qu'on est vraiment seul dans une bulle créatrice avec des objets à créer, comme une forme de bricolage un peu à l'ancienne. sans gros studio, sans gros budget ou ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose de très délicat et très plaisant à faire. Donc, il y a vraiment une ambiance à faire de l'animation.
Tu arrives à chaque fois à distinguer les romans et les courts-métrages que tu produis. Un roman ne peut pas forcément devenir un court-métrage. Quoique La famille Vent de Vampire, c'est devenu peut-être avant ou après un livre, je sais plus. Dans quel sens c'est devenu une comédie musicale? C'est la comédie musicale et après le livre ou c'était l'inverse?
Là, ça s'est un peu mélangé, ça s'est un peu superposé à un moment. Du coup, j'ai posé le livre, j'ai réécrit, j'ai mélangé, j'ai rencontré des personnes qui composaient. Enfin, du coup, c'est la première fois où il y a eu une espèce de micmac de plein de choses qui sont mis ensemble. Donc c'était une expérience assez extraordinaire du coup. Et en général, les projets ne se mélangent pas et c'est vraiment un projet puis un autre et c'est souvent lié à un besoin. C'est cyclique l'écriture ou le film est souvent avec des pauses et on revient à autre chose. C'est des besoins organiques qui font qu'on a besoin aussi de maturation, de se nourrir, d'observer, de lire, de voir et ensuite de retranscrire ce dont on a besoin.
Le Roi des Villes, ton dernier roman, m'a fait aussi un petit peu penser à la comédie musicale Cats.
D'accord, bah c'est intéressant.
Pas sur tous les plans en tout cas, mais effectivement, ces chats qui vivent dans la rue. Tu l'as vu cette comédie musicale?
Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé Memory, mais si je dis pas de bêtises. Hein.
Ah oui, c'est ça. Oui. Mmh, tout à fait. Tu parles de la chanson là, Memory, oui, mais tout oui. à fait.
Mais non, j'ai pas du tout fait le rapprochement, mais après, c'est vrai que j'aime bien l'idée de mettre d'avoir des animaux dans les films ou dans une comédie musicale entre autres ou de faire vivre les animaux dans des dessins animés ou que ce soit des personnages à part entière et qu'ils aient une vie comme dans les Aristochats, comme dans les 100 Dalmatiens, voilà, que ça devienne vraiment des personnages qu'on suit et c'est assez fascinant du coup. Qui les rend attachants et humains. Moi, je vais beaucoup plus pleurer facilement quand je vais voir un dessin animé ou un film avec des animaux qu'avec des humains. Il y a une forme de sensibilité. Je pense que c'est lié aussi à leur innocence parce que je pense qu'il n'y a rien de foncièrement méchant volontairement dans un animal.
Eh ben, merci beaucoup. Jérémy Nils Circus, d'être passé une nouvelle fois sur IDFM Radio. Ton dernier roman, Le Roi des Villes, vient de sortir chez la maison d'édition L'Harmattan. Tu fais ou tu vas faire quelques séances de dédicace autour de ce roman?
Je ne sais pas encore, du coup. Je ne sais pas.
Tu ne sais pas, d'accord.
Non, je ne sais pas.
Tu l'avais fait déjà auparavant pour Tristan et Oscar ou encore La famille Vent de Vampire?
Oui, j'avais rencontré beaucoup de personnes. Donc là, du coup, j'ai discuté avec beaucoup de blogueurs et pour Le Roi des Villes. Donc, ça a été un partage différent cette fois et j'ai eu énormément de retours. Donc ça, c'était une nouvelle expérience pour ce nouveau roman et ça a été assez extraordinaire pour moi de pouvoir dialoguer avec des gens du coup que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, voilà, ça a été d'autres expériences.
Merci encore, à bientôt sur IDFM Radio.
Merci.
Bon
merci.
Week-end.
You want me to say? Thought I made it clear. If you want. never leave you. It's like ecstasy.
Découvrir la gastronomie des Outre-mer, les cuisines du monde, c'est ce week-end avec comme pays invité d'honneur la Martinique, des épices, des senteurs à découvrir à gogo dans les allées de la Porte de Versailles jusqu'au 28 janvier. C'est la 9e édition du Sagas d'Homme, et c'est à l'initiative de la célèbre chef Babette de Rosière, qui sera avec nous dans un instant par téléphone pour nous détailler un petit peu cet événement.
C'est ma raison de vivre, donc je la défends comme Walker. Le scénario du film, c'est nous les vainqueurs. Il s'agit de sur mon âge, ils ont trop de rancœur. T'es ma sœur et j'en ai conscience. C'est le lien du sang qui font qu'on se trahit pas, j'ai confiance. Quoi que tu dises, on va dans le même sens. Si toi t'es la voiture, tu sais bien que moi je reste ton essence. Moi je reste ton essence. Moi je reste ton essence. Moi je reste ton essence.
Babette de Rosière aujourd'hui est avec nous sur IDFM Radio. Bonjour Babette.
Bonjour, comment ça va?
Bah, en pleine forme, bonne année, meilleurs vœux.
Merci, réciproquement, hein, l'année s'est terminée, on est une nouvelle année et j'espère que ça se passera bien.
Tout à fait, on a déjà beaucoup mangé sur la fin de l'année et là avec vous on va encore mieux manger avec votre salon, présidente, fondatrice d'un salon qui s'appelle Sagas d'Homme, 9e édition. Je rappelle quand même que vous êtes chef cuisinière, vous avez un restaurant qui s'appelle La Case de Babette, vous avez écrit des livres, vous êtes aussi engagée, un petit peu beaucoup passionnément en politique et... Vous organisez donc pour la 9e année le salon de la gastronomie des Outre-mer et cuisine du monde à la Porte de Versailles. Ça va durer 3 jours à partir du 26 janvier. Qu'est-ce qui vous anime autant de faire tout ça, la cuisine, la politique, d'organiser ce salon, de gérer à la fois un restaurant? C'est beaucoup de missions.
Mais oui, c'est beaucoup de missions, mais tout est lié. Il y a un seul mot, c'est la gastronomie. Vous savez que la gastronomie, ça crée des ponts, ça fédère. Donc, mon métier, si vous voulez, j'ai beaucoup de casquettes, mais toutes les casquettes sont liées à la gastronomie. Alors, pour commencer, évidemment, je suis chef de cuisine. C'est mon métier que j'ai choisi et que je ne quitterai jamais, même si j'ai des casquettes politiques, même si je fais autre chose à côté. Mais il faut dire que le salon de la gastronomie des Outre-mer, je l'ai créé pourquoi ? Je l'ai créé parce qu'aucun ministre des Outre-mer s'est intéressé à ce que nous faisons, à la promotion, à promouvoir la culture des Outre-mer. On classait la cuisine des Outre-mer comme une cuisine ethnique. Alors, moi, je n'ai pas pu supporter ça, alors que nous sommes la France, et j'ai voulu démontrer que la cuisine des Outre-mer joue exactement dans la même cour que la cuisine française. C'est un pont qui étend la cuisine française et c'est une continuité de la cuisine française. Donc, c'est pourquoi j'ai créé ce salon, pour valoriser tous les produits qui se font en Outre-mer, tout ce qui se fait de mieux en Outre-mer au niveau de la gastronomie, pour montrer que nous existons d'abord et pour montrer que nous faisons de très belles choses au niveau de la gastronomie. Et cette gastronomie, justement, ajoute un plus à la gastronomie française.
Voilà, on pourra découvrir à la fois des plats qui viennent de Tahiti, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane.
Des 9 territoires. Il y aura dans ce salon tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se fait de mieux au niveau de la culture créole et dans les 9 territoires. Et vraiment, les gens aiment beaucoup ce salon parce que c'est un salon qui est vivant, qui est festif. L'invité d'honneur cette année, c'est la Martinique. Et puis le thème, c'est l'art de vivre et les épices. Donc, quand on rentrera dans ce salon, on pourra voir multitude de choses. On pourra voyager dans les 9 territoires sans jamais quitter Paris. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça à Paris, pour que les Outre-mer aient un toit chaque année, au même moment, à la fin du mois de janvier, à la Porte de Versailles, Hall 5-1. Et puis, il y a d'animation, il y a l'espace chef, il y a même le recteur de Paris qui accompagne des élèves pour justement faire une transmission, leur montrer ce que c'est que la transmission à l'espace chef. Les marmailles, où les personnes pourront laisser leurs enfants, et en même temps, les enfants, on leur apprend à faire des petites choses en cuisine, c'est intéressant. Il y a le trophée Babette, où on fait venir des jeunes des Outre-mer, des jeunes élèves de l'école professionnelle des Outre-mer, qui passeront le concours accompagnés des grands chefs étoilés. Ça leur permet de voir un peu le métier plus profondément et puis de côtoyer aussi les grands prêtres de la cuisine. C'est important pour les jeunes qui arrivent. Et puis le podium, évidemment, d'animation où tout s'exprime, les 9 territoires avec leur folklore, leur danse, leur culture, et c'est vraiment très bien. Et pour couronner tout ça, nous avons un conférencier qui est philosophe, qui est à la disposition du public pour traiter tous les sujets et bien montrer ce que c'est que la cuisine créole, développer l'idée même de la cuisine créole, parce que les gens se font une mauvaise idée de la cuisine créole. Or, la cuisine créole, c'est une cuisine qui est tellement douce, tellement belle, tellement sensuelle, qui invite au voyage, qui invite à plein de choses de la vie courante. Et c'est pour ça que je me fais un plaisir de les inviter les 26, 27, et 28 janvier.
Donnez-nous
à la Porte de Versailles.
Donnez-nous quand même l'eau à la bouche, Babette de Rosière. Qu'est-ce qu'on pourra déguster, entre autres? Quels sont les plats typiques, par exemple, de la Martinique?
Ah ben, à Martinique, on pourra déguster ce qu'on appelle le colombo de plein de choses. Le colombo se décline, c'est un plat à base de curry, mais qui se décline à base de viande, de volaille, de poisson, de crustacés. Et avec ça, on a la chance de faire aussi des petits plats aux petits dombrés. Les petits dombrés, c'est des petites gnocchis qu'on met dans la sauce d'un poisson pour donner du goût, et citronné avec un petit piment léger, c'est très, très, très intéressant. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le crabe farci, il y a le pâté doudou, il y a aussi en Guyane...
C'est quoi le pâté doudou?
Le pâté doudou, c'est un pâté feuilleté, c'est un petit pâté rond feuilleté dans lequel on met ou du crabe ou des légumes ou de la volaille ou du poisson. Et c'est très intéressant, c'est légèrement pimenté, c'est très intéressant pour accompagner un bon petit punch avec modération.
Eh ben, ça donne vraiment envie. Merci beaucoup, Babette de Rosière, d'avoir été avec nous. 3 jours pour faire la fête. Vous allez découvrir les Outre-mer, les cuisines du monde, grâce à la 9e édition de Sagazdom.
Et on peut déjà acheter les billets en ligne.
Sur sagazdom.fr, sur le site, par exemple. Donc, voilà, 26, 27 et 28 janvier à la Porte de Versailles, avec aussi 2 nocturnes. Ça veut dire que ça va fermer. Vendredi, samedi, ça fermera vers 22h, minuit
22h.
Très bien. Eh bien, au plaisir d'échanger avec vous directement sur place au moment du salon.
Et je vous attends également à la Casa de Babette à Maule. C'est mon restaurant dans les Yvelines.
Eh oui, tout à fait. Et puis, voilà. On peut aussi déguster des yeux vos différents livres, notamment Festin créole.
Voilà, exactement. À très vite. Merci
à bientôt, beaucoup. Babette.
Merci, au revoir.
IDFM Radio, vous écoutez toujours la matinale.
She's a flight risk on the run. She's back, she's back. Yeah, I'm back, bitch, are you done? Excuse me while I bite my tongue. I've got all that same shit from before. I can't take it, shittiness number. We can't share, babe, there's enough for us all. Told you who I am. Get a name, get a good thing while you can. Kiss a blind, kiss a friend, okay. Can a gay girl get an amen? Hey, same shit from before. I can't take it, shutting this number. We can share, babe, there's enough for us all. Told you who I am.
Like Trojan, and it wouldn't be me if I ain't cause commotion. Yeah. Bitch, so bad, dudes thought I was AI, ballin' like AI. Stick to the motherfucking money like a stapler, stack like Jenga. Any pussy bitch get stroked like a paint job. It's funny how the mean girl open all the doors. I been told y'all, I'm the black Regina George. Bikini top, booty shorts, Megan Court. You was hating back then, now you finna hate more. I got influence, they do anything I endorse. I run shit to be a bad bitch, it's a sport.
I woke up hotter than I was yesterday. Don't care about no rules, cause I always get my way.
IDFM Radio, bon week-end avec nous. Nous accueillons maintenant Tiphaine Sadoun, la responsable de la librairie Crocolivre, une librairie jeunesse qui se trouve à Enghien-les-Bains. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Christophe.
Pour te retrouver, c'est avenue du Général de Gaulle. Non, c'est rue du Général de Gaulle.
C'est ça, au numéro 28.
J'ai toujours du mal. Hein.
C'est pas grave.
C'est rue ou avenue, parce qu'il y a aussi l'avenue du Général de Gaulle. Ça doit exister quelque part, en tout cas.
Oui, dans d'autres villes, mais sur Enghien, on est rue du Général
rue,
de Gaulle.
Voilà. Mais avenue, je trouve que ça fait plus prestigieux pour ce monsieur.
Oui,
mais...
c'était peut-être trop grand, vu notre rue, je ne sais pas.
Nous allons laisser tomber. En tout cas, c'est important de le préciser. Tu es dans, c'est l'avenue principale.
Oui,
de toute façon,
pas très loin de la gare. Commerçante,
hein. Oui. C'est facile de toute façon pour te retrouver, t'identifier. Tu as placardé ton crocodile un peu partout.
C'est ça.
Il est mignon. Bonne année à lui. Bonne année à
oui,
toi.
Oui, merci Christophe. Toi aussi, plein de bonnes choses.
Bonne année aussi à tes deux collaboratrices.
Merci. Oui, on les embrasse.
Tu nous reprécises leurs prénoms.
Flavie et Ludivine.
Parce que quand tu t'absentes de la boutique, c'est elles qui tiennent. Hein,
exactement.
Reines,
hein. T'as tout compris.
Ça ne rigole pas. On va parler de petits, de grands, de moyens livres, comme nous le faisons plus ou moins une fois par mois sur IDFM Radio. On va commencer avec ce trop mignon livre, un petit bisou, je veux un petit bisou chez Gallimard Jeunesse.
Oui, tout à fait. Donc il y en avait eu plusieurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite tortue. Là pour le coup c'est un tigre qui veut un bisou, vous retournez le livre et c'est un crocodile qui veut un bisou et tous les deux n'arrivent pas à trouver de bisou de quelqu'un pour en faire. Chacun est trop occupé, tous les autres animaux les rejettent, sauf qu'au milieu du livre on les retrouve tous les deux et ils se font des petits bisous et des petits câlins. C'est vraiment trop mignon, ça s'appelle « Je veux un petit bisou » chez Gallimard Jeunesse.
À l'endroit, à l'envers, recto, verso, on peut
tu
le
peux le mettre dans tous les sens.
Un petit peu dans tous les sens, effectivement. Il y a aussi ce livre qui s'appelle « L'espace » avec une toute petite marionnette, c'est un mignon petit chiot.
Oui, tout à fait, Christophe. Donc ça, c'est une toute nouvelle collection chez Casterman. Vous connaissez déjà, ils sont très forts en livres marionnettes. On les retrouve avec la licorne, le hérisson. C'est tout petit carré dans lequel vous pouvez mettre les doigts et il y a la tête de l'animal qui sort. Là, c'est vraiment une autre collection dans leur édition des livres marionnettes. C'est la collection des doudou docs. Donc on retrouve toujours l'animal qui sort et dans lequel on met ses deux petits doigts. Mais donc, c'est du documentaire pour les tout petits. Il y en a quatre. Il y en a un sur la danse, il y en a un sur les pompiers, sur les dinosaures et celui que j'ai dans les mains, c'est sur l'espace. C'est vraiment du premier documentaire pour les petits tout en faisant marcher la marionnette.
Et puis ça va vite à être feuilleté, à lire aussi.
C'est costaud, c'est du tout carton, vraiment c'est très très pratique pour les petits.
Encore un autre livre pour les plus jeunes, pour les petits, avec pas forcément trop de lecture, La journée de bébé en signe.
Oui, alors ça c'est tout nouveau, c'est chez Lito, en plus c'est illustré par Marion Billet, que souvent vous adorez. C'est aussi un livre tout carton, mais un livre beaucoup plus grand, avec des flaps. Et en fait, le principe c'est apprendre la langue des signes avec bébé. Donc comment ça fonctionne? À chaque double page, vous avez une thématique, et sur chacune des doubles pages, vous avez un petit peu moins de 10 flaps avec des dessins, par exemple un chat. Vous soulevez le flap et on vous explique comment faire, comment dire chat en langage des signes. Donc c'est vraiment première initiation au langage des signes pour parents et bébés.
Donc chat, c'est au niveau de,
oui,
de la
c'est
moustache.
Oui, c'est trop mignon, hein. On fait les moustaches, c'est ça, t'as tout compris.
Le ballon, par exemple,
ah,
qu'est-ce
le
qu'il
ballon,
faut faire comme
alors,
geste
attends,
ou comme
que
signe.
Je regarde. Il faut mettre ses deux mains devant sa poitrine, l'une en face de l'autre. Elles vont former comme un rond. Et avec les doigts un peu pliés, vraiment comme si tu le tenais dans tes mains et tu as tes joues qui se gonflent, comme si tu soufflais.
Ballon, tout simplement.
Ballon, voilà. Mais c'est hyper bien expliqué, je trouve.
Pour les plus grands, il y a Vibidia, c'est qui ?
Alors, Vibidia, c'est une jolie petite coccinelle qui, alors c'est à l'école des loisirs, c'est leur collection Mouche, c'est du premier roman. C'est génial, vraiment, c'est super, autant dans le dessin que dans le texte. C'est arrivé hier, c'est tout frais. Donc, c'est une petite coccinelle qui a 12 points sur le dos. Et
donc,
un
elle
matin,
a 12 ans. Ah et ouais, non, c'est ce non. qu'on croyait, effectivement, mais ça ne veut pas signifier l'âge de la coccinelle. Hein, c'est point.
Exactement. Donc un matin, elle reçoit une lettre et dans cette lettre, on lui annonce qu'on va lui retirer ses points et que du coup, vu qu'elle a plus de points, elle a plus le droit de voler.
C'est triste.
Ouais, mais tu vas voir, c'est rigolo parce qu'elle va essayer de trouver des solutions, regarde, pour se fabriquer des nouveaux points.
Ah oui, c'est marrant.
Non, vraiment, c'est génial. C'est hyper drôle.
Un beau livre aussi sur le fromage. On adore, nous, le camembert, le brie,
Bruyère, alors quand même,
voilà, on est un pays qui mange et qui produit énormément de fromage. Tu ne le sais pas, Christophe, mais j'ai une passion pour le fromage.
Ah oui.
J'adore ça, mais
si je viens tout à l'heure chez toi, normalement il y a un morceau.
Ah oui, oui,
dans
c'est de la folie. Je me suis encore fait une orgie hier soir. j'adore ça. J'ai une passion pour le chèvre, si tu veux tout savoir. Enfin bon, bref, je vais arrêter. Mais quand j'étais petite, j'avais une tata qui élevait des chèvres et qui fabriquait son propre fromage de chèvre. Et donc, je crois que je suis née un petit peu là-dedans.
Pourtant, c'est fort en goût en plus, hein.
Ah non, mais j'adore ça, c'est ma passion. En tout cas, ils ont sorti un livre chez Milan qui est assez incroyable, qui s'appelle Balade en fromagie. Et en fait, c'est tout sur le fromage, autour du fromage. Et t'apprends tout, à la fois son histoire, sa fabrication, tous les produits qui sont utilisés, l'économie autour du fromage, le fromage et la santé, des choses sur le lait cru, pasteurisé, c'est quoi la différence et pourquoi on mange de fromage et qu'est-ce que ça nous apporte et comment on a créé certaines marques. En fait, c'est génial. Alors, c'est une niche, hein, je l'avoue. Mais si, comme moi, vous êtes fan de fromage et que vous avez envie de tout savoir sur le fromage, ce documentaire est fait pour vous.
Et puis, on fabrique pas de la même façon tel ou
exactement,
tel fromage.
Exactement, non, mais c'est pour ça que c'est hyper pointu, c'est hyper intéressant, il y a plein de secrets, il faut absolument l'acheter et le lire.
Balade en fromage.
En fromagie.
En fromagie, d'accord.
Exactement.
C'est de la magie.
Un peu, figure-toi.
On peut parler aussi des Jeux Olympiques, c'est bientôt, c'est là, dans quelques mois, à Paris,
oui.
Avec ce très beau livre, des
Alors,
animaux en folie.
Je sais que les JO, c'est qui tout double, soit vous adorez, soit vous détestez.
Mais si, on va tous aimer, tu vas voir.
Et bah, franchement, moi, il y a plein de gens qui m'envoient bouler en ce moment, en mode, les JO, il y en a marre.
Oh,
mais moi, je suis trop contente. Je suis vraiment trop, trop contente. Je crois qu'il y a des gens qui me prennent pour une dingue. Mais j'ai trop hâte, je trouve ça trop génial.
Attends, nous, on n'habite pas Paris.
Et puis,
on est en retrait quand même.
Oui, et puis on va avoir plein de monde, ça va être super.
Qui passe le 19 juillet.
Il y a la flamme.
Juillet.
Voilà, je pense qu'on va vivre plein de belles choses et qu'il faut en profiter. C'est pas tout le temps. Donc nous déjà, on est sponsor, hein. On vend à la librairie les fridges. On fait plein de choses. On a un concours avec l'école des loisirs autour des Jeux Olympiques. On monte un truc avec des Olympiades. Enfin voilà, on va faire beaucoup de choses autour des JO dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et là est arrivée une nouveauté chez Élan Vert. C'est un album. En plus, c'est Hervé Le Goff. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Hervé Le Goff, c'est mon auteur illustrateur préféré, je l'aime trop. Et donc il sort un livre qui s'appelle Vive les Jeux, et en fait c'est génial parce que c'est sur l'ambiance des JO. C'est pas vraiment une histoire, mais c'est les JO par étapes. Chaque animal dans chaque double page va expliquer un peu ce que c'est les JO. Et donc c'est plein d'humour parce que sur la première page on voit le lion qui allume la flamme olympique, mais qui se gourre un peu puisqu'il se crame une bonne partie de sa fourrure en allumant la flamme. Donc il y a beaucoup d'humour.
La crinière, elle prend cher. Hein.
Oui, elle prend très cher, la crinière. Rien que pour ça, faut venir le voir à la librairie. On va expliquer c'est des gens de tous les pays. Et puis, on va expliquer tous les à côté, toutes les belles choses autour des JO, toutes les valeurs qu'il peut y avoir. L'important, c'est pas forcément de gagner. Puis, qu'est-ce qu'on peut trouver comme sport? Et c'est plutôt acrobatique. Et puis, il y a du sport d'équipe, il y a du sport tout seul. Et enfin, voilà, c'est hyper, hyper beau, sensible. C'est plein de valeurs à l'intérieur. Et les dessins, ils sont extraordinaires.
Merci, Tiffaine. Un dernier ouvrage quand même, avant de refermer chronique spéciale
je
livre
peux pas
en compagnie
choisir.
De la librairie Jeunesse Crocoline.
Je peux pas choisir, mais je vais aller super,
oh là
super
là
vite.
Là. Vite. Des Lapinous.
Chez Kaleidoscope, il y a un album qui est sorti, qui est génial, qui s'appelle Quand on est au milieu. C'est illustré par Christopher Denis, que j'adore. En fait, c'est un thème, on l'a jamais eu. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je t'en parle. C'est sur l'enfant qui est au milieu. Quand les enfants dans une famille sont trois, c'est un album sur le deuxième. Sur, il est pas le plus petit, il est pas le plus grand, il est celui du milieu. Et c'est comment trouver sa place entre ces deux autres enfants. Et je trouve cet album mais vraiment extraordinaire. Il fallait qu'il existe.
Et toi,
il est enfin sorti.
Tu le vis encore.
Et moi, je le vis. Donc déjà, c'est un album que j'ai offert à mon celui du milieu. Et c'est tellement touchant. Enfin, voilà. Si vous avez trois enfants, cet album est fait pour vous. Il faut absolument venir l'acheter.
Quand on est au milieu, ça
s'appelle. Quand on est au milieu.
Avec des lapins.
Exactement.
Et dernier ouvrage sur la circulation.
Et ben voilà, alors pareil, c'est aussi un ouvrage qui n'existait pas, c'était aussi important pour, enfin c'est aussi pour ça que c'était important de te le présenter. Ça vient de sortir, c'est chez Nathan. C'est en plus fait en association avec une association, c'est très bizarre à dire comme phrase, mais du coup, c'est un partenariat avec une association qui s'appelle Prévention Maïf. Ça s'appelle Mon Permis Piéton, c'est fait par Nathan. C'est conçu comme un espèce de terrain de jeu. Dedans, on va apprendre à traverser, on va apprendre à se déplacer sans danger en ville, à pied, à vélo, comprendre les panneaux, les reconnaître. Voilà, c'est plein de bons réflexes. C'est vraiment super bien. C'est vraiment le permis piéton des petits. C'est dès la maternelle. Et en plus, il y a des petites activités pour apprendre la circulation. C'est super bien fait. Permis piéton, si vous avez envie d'aborder ce sujet avec vos enfants pour faire très attention dans la rue et les sensibiliser à tout ça, c'est vraiment très, 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 très bien.
Bon, après, tu nous as ramené d'autres livres, bien évidemment.
Oui, mais je
ne
peux
découvrir.
Jamais tout présenter, j'y arrive
pas.
C'est
pas possible.
Mais tu vois, je n'arrive pas à me
comme
me
la
cantonner.
Vie secrète des cheveux et autres
autre
poils.
Autre poil, ça aussi, c'est génial.
C'est rigolo.
C'était sorti sur les crottes de nez, je ne sais pas si tu te souviens. Si, bon, bref, j'arrête. Il y avait les dents aussi.
Prochain.
Bref, j'arrête.
À très vite. Bon, week-end, Tiffany.
Merci à toi aussi.
Et puis, dernière petite chose,
ah oui.
Avec un salon qui a lieu là, dans 2-3 jours.
Et ben, une semaine en fait, jour pour jour, une semaine. Puisque c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end prochain.
Le week-end des vacances, le premier week-end des vacances.
Non, on est en vacances le 10. C'est
bon,
pas
le
ça
9. Bah, alors c'est quand
3 et 4.
Ah, 3 et 4. Ah, je croyais que c'était ce week-end-là.
Ah,
le week-end
pardon,
des vacances.
Excuse-moi, c'est toujours un peu compliqué.
Donc 3 et 4, ok.
Oui, je compte sur vous. C'est le fameux salon du livre que j'organise dans la ville de Daumont. Oui, on est à Enghien, mais Daumont, c'est pas très très loin. Si vous regardez bien, ça se fait très très facilement. 15-20 minutes en voiture. Il faut absolument venir me voir, puisque on vous prépare des surprises de dingue, des auteurs, des illustrateurs en dédicace.
De dingue.
De dingue. Il y aura des mascottes, des ateliers, des expos, des jeux, une tombola, des prix à gagner, un espace compte, vraiment des trucs trop 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 super. Donc si vous savez pas quoi faire de votre week-end, eh bien le 3 et 4 février, je vous attends au Salon du Livre de Daumont à la salle des fêtes.
Merci beaucoup Tiffany.
Merci Christophe, à
bon
bientôt.
Bon week-end, rendez-vous le mois prochain
bon
pour
week-end.
Encore plein de surprises, de livres, de salons.
Oui, plein plein de surprises.
IDFM Radio.
Love, I'll be there.
I'll be there.
Un bon week-end, un bon samedi, amusez-vous bien, profitez pour sortir avec vos proches, même s'il va faire un petit peu froid samedi, oui, aujourd'hui, c'est vrai, ça cacaille, mais on est là aussi pour vous réchauffer avec nos différentes playlists musicales. Je voulais aussi vous signaler, comme chaque samedi de 11h à midi, vous avez un rendez-vous avec la musique classique et l'opéra. C'est Christophe Gravreau qui présentera Balade musicale. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur EDFM Radio.